VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. C'est aujourd'hui que débute en principe à Paris le procès pour corruption de Théodorine Obiang-Nguema, fils du président équato-guinéen et lui-même vice-président de la Guinée équatoriale. Son procès est le premier jugement en rapport avec l'affaire des biens mal acquis déclenché par les ONG Sherpa et l'ONG Transparency International. Timothée Donangmaï.
On s'attend à ce qu'il plaide non coupable des chefs d'accusation de corruption, détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Il est reproché à Théodorine Obiang-Nguema d'avoir accumulé en France et dans d'autres pays occidentaux hôtels particuliers, véhicules de luxe, œuvres d'art et vins fins, entre autres, un patrimoine valant plusieurs millions d'euros qu'il aurait acquis en détournant les fonds publics de son pays, accusation qu'il a toujours rejetée. Ce n'est que la première étape, a fait savoir Maître William Bourdon, président de l'association Sherpa et conseiller juridique de Transparency International. En septembre, la Guinée équatoriale avait saisi la Cour internationale de justice de la Haye pour demander la suspension des poursuites contre Théodorine Obiang-Nguema, estimant que son immunité diplomatique avait été violée. Elle a obtenu la restitution d'un hôtel particulier de Paris, saisi dans le cadre de l'enquête, en affirmant qu'il fait partie du domaine de sa mission diplomatique. Toutefois, la Cour internationale de justice avait indiqué n'avoir aucun moyen de bloquer l'action judiciaire engagée en France.
En RDC, l'accord signé par le gouvernement et l'opposition la veille du jour de l'an sous la houlette de la CENCO, la conférence épiscopale catholique, suscite une vague d'optimisme dans le pays après plusieurs mois de crise politique. Le document prévoit notamment le départ du pouvoir du président Joseph Kabila d'ici à la fin 2017. Mais certains Congolais restent sceptiques au vu des expériences précédentes. Timothée Donangmaï a joint à Louvain-la-Neuve, en Belgique, le professeur Patrick Bamba Dilelo, conseiller politique à la présidence de la coalition des Congolais pour la transition. On l'écoute.
La CENCO a fait son travail, mais néanmoins, elle n'est pas allée au-delà des aspirations du peuple congolais. Parce que j'explique pour ma part que Kabila est arrivé fin mandat. On doit le conjuguer au passé. Mais je sais qu'il y a eu des concessions à faire pour qu'il reste encore pendant une année en fonction. Mais la Constitution ne le prévoit pas. Et donc, pour moi, Kabila, on vient le considérer comme ex-président et non comme président en exercice.
Ne vaut-il pas mieux un accord imparfait pour tenter de sortir le pays de la crise plutôt qu'une interminable querelle politique?
Il s'agit d'une crise artificielle, créée délibérément par les gens qui sont au pouvoir. Et que par conséquent, si nous devons suivre ces gens-là, et nous jouons aussi le jeu, j'aurais voulu personnellement que Kabila arrive à son mandat le 19 décembre, il devait tout bonnement quitter le pouvoir et laisser la place aux autres. Il veut y demeurer jusqu'à quand? Je suis presque convaincu, et je vous le dis, qu'après une année, même d'ici quelques jours encore, la majorité présidentielle va évoquer d'autres prétextes. Ils vont nous parler de référendum. Kabila ne veut pas partir. Il n'a pas envie de partir. Et il ne partira pas.
Le professeur Patrick Bamba Dilelo, conseiller politique à la présidence de la coalition des Congolais pour la transition, joint en Belgique. À Afrique de l'Ouest maintenant, au Niger, au moins deux soldats nigériens ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de position de l'armée par Boko Haram dans le sud-est du pays. Et ce, une semaine après la reddition d'une trentaine de combattants nigériens de la secte islamiste. Une dizaine de djihadistes ont été tués lors des combats. Selon une télévision locale, l'attaque a visé samedi vers minuit heure locale des positions de l'armée nigériane à Baroua, une localité de la région de Diffa à proximité de la frontière du Nigeria. Rappelons qu'en dans un message de vœux à la nation samedi soir, le président nigérien Muhammadu Issoufou a lancé un appel à tous ceux qui se sont laissés entraîner dans la voie de l'égarement par Boko Haram, à se ressaisir et déposer les armes. Le Mali organisera une conférence d'entente nationale en mars 2017. C'est ce qu'a annoncé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion du Nouvel An. Le chef de l'État malien a souligné que l'une de ses priorités sera l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 dans son pays, qui continue d'être la proie d'attaques de groupes divers. Et puis en Gambie, le président gambien Yahya Jammeh a accusé dans son discours de nouvel an la communauté économique des États de l'Afrique d'Ouest, la CEDEAO, de lui déclarer la guerre. Après la décision de la CEDEAO de placer des forces militaires en état d'alerte pour le cas où il refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son mandat le 19 janvier. Yahya Jammeh, qui dit vouloir rester au pouvoir en dépit de sa défaite lors de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016, remportée par son rival Adama Barrow, a aussi promis de défendre la Guinée contre toute agression extérieure dans cette allocution diffusée par la télévision publique. Le président sortant avait initialement reconnu sa défaite avant de la contester quelques jours plus tard.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Rétrospective de l'année 2016 au Bénin. Quel bilan peut-on faire de l'année qui vient de se terminer dans le pays et quelles sont les perspectives pour l'année 2017? De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur Adandé fait le point.
Le Bénin a connu un changement sur tous les plans en 2016. Cela a commencé le 6 avril par l'élection de Patrice Talon, opérateur économique, resté des années en exil parce que soupçonné d'avoir voulu porter atteinte à la vie de l'ancien président Yahi Bouni. Le chemin ayant conduit à l'élection de cet homme d'affaires a été jalonné de bien de difficultés. Indisponibilité des cartes d'électeurs, report de l'élection présidentielle, propos discutoires entre candidats, campagne électorale sous fond de tensions, de montages grotesques et de diffamations tous azimuts. Mais contre toute attente, l'homme d'affaires a été porté au pinacle de la gestion de la chose publique et les réalités du pouvoir se sont imposées à l'homme. En moins d'un an de gestion, certains sont arrivés à regretter le fait d'avoir confié leur vote à Patrice Talon. Aujourd'hui encore, en regardant dans le rétroviseur, ils pensent que le pays n'est pas mieux géré.
Nous avons un gouvernement qui navigue à vue. Nous avons un gouvernement qui est sans vision. Nous avons un gouvernement qui est sans priorité. Parce que diriger un pays, ça se prépare. Le poids est complètement tombé. On nous parle de 2 milliards, 462 milliards de dettes. Ça, c'est la totale, ça. C'est faux. Les audits, l'audit ne doit pas être un moyen de chantage politique.
Cherté de la vie, suspension d'un bon paquet de sociétés avec à la clé plusieurs personnes renvoyées au chômage. L'année 2016 a eu un goût amer chez certains. Pour l'aspect en gouvernance, Joël Ataï-Guedegbe, le refus de communiquer opté par le gouvernement reste une difficulté majeure.
Et ce qui aura vraiment frappé, c'est à la limite son manque d'ouverture à l'information des citoyens. Et bien que des décisions aient été régulièrement annoncées et prise tantôt de manière surprenante, tantôt même de manière attendue. D'où le paradoxe aussi de cette gouvernance qui est caractérisée par une volonté de rupture avec le passé, mais qui ne met pas suffisamment en exergue les sanctions dont sont l'objet et ceux qui ont été coupables de ces actes-là.
Mais fort heureusement, peut-être le gouvernement a saisi le dernier mois de l'année 2016 pour présenter un plan d'action, une feuille de route pouvant permettre de remettre le pays sur le rail du développement, redonner espoir aux Béninois. Le ministre d'État chargé de l'action gouvernementale, Ablaye Biotchane, en parle ici.
Pendant le quinquennat, plus de 77 réformes, plus de 299 projets. Ces réformes touchent tous les secteurs. D'abord, l'institutionnel, où nous commençons par la réforme de notre système partisan. Et enfin, sur le domaine social, où nous avons surtout la réforme pour l'accès de nos compatriotes aux services sociaux de base. Une fois que nous avons engagé ces réformes et pendant que nous mettons en œuvre ces réformes, nous investissons massivement dans tous les secteurs de l'économie.
Le chef de l'État mesure d'ailleurs la taille du défi qui lui incombe et le jour de la présentation du plan d'action de son gouvernement, il a réitéré son intention de contribuer efficacement au développement du Bénin.
Comme je l'ai eu, j'ai eu à le dire plusieurs fois pendant la campagne, je ne vais pas vous décevoir. Mon équipe ne vous décevra pas. Ce que nous avons planifié, organisé, minutieusement défini sera mise en œuvre sans relâche, parce que nous l'avons fait avec réalisme. Nous avons identifié les sources de financement, nous les avons évaluées et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Faites-nous confiance et ensemble, nous allons relever le défi.
Si 2016 a été une année de grands bouleversements et de changements, 2017 n'en fera pas défection, puisque dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a rappelé aux Béninois la nécessité de faire des sacrifices pour atteindre ensemble la croissance voulue. Et c'est loin d'être le discours qu'attendaient les Béninois qui crient famine, chômage et bien d'autres encore. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.